podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Marlier.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast à dossier de frontières des séries. Que serait la sitcom sans la famille? Format sériel idéal pour raconter les aventures du noyau familial. La sitcom évolue avec son temps et met en scène les familles à travers les époques. Mieux, elle n'a pas peur de bousculer les conventions et les mentalités en présentant des familles non conventionnelles à l'écran. Si tout a commencé avec I Love Lucy qui bousculait déjà les codes en unissant un couple mixte, une américaine et un latino, la sitcom n'a cessé de réinventer la définition même de la famille. Après le veuf éploré de La Fête à la Maison, la famille raciale mixte de Arnold et Willy, la famille adoptive de Punky Brewster, la famille recomposée de Notre Belle Famille, la famille au sens large avec les célèbres Friends, ou encore la famille déjantée de Arrested Development, la télévision américaine nous propose désormais de suivre les aventures de la famille moderne du 21e siècle. Modern Family est une sitcom diffusée sur ABC depuis 2009, elle compte déjà 6 saisons à son actif et rien ne semble pouvoir lui résister. Jugez plutôt, elle réussit l'exploit de faire le grand chelem des Emmy Awards. Depuis sa création, elle a été systématiquement couronnée meilleure série humoristique par le prestigieux prix, soit déjà 5 statuettes à son actif. Les acteurs de la série ne sont pas en reste puisqu'ils sont également couverts de récompenses. Il faut dire que le casting de Modern Family affiche un sans faute. Ed O'Neill, le père bougon de Marié deux enfants, Sofia Vergara, colombienne reconnue pour sa plastique de rêve, Julie Bowen, tout droit rescapée de Lost, et encore Eric Stone Street, un habitué des série qui avait fait des apparitions dans Pushing Daisies, The Mentalist ou encore Nip Tuck. La série compte également des têtes nouvelles ou encore relativement inconnues jusqu'alors comme Jesse Tyler Ferguson, Sarah Jane Island ou Ariel Winter. Tous confondant de justesse, les acteurs prennent un plaisir évident à débiter les dialogues ciselés des deux créateurs et scénaristes, Christopher Lloyd et Steven Levitan. Ces derniers avaient déjà sévi à la télévision avec la série Frasier, le spin-off de Cheers. Leur nouveau bébé rassemble une belle moyenne de 10 millions de téléspectateurs et a déjà été renouvelé pour un 7e round. La série mérite-t-elle pourtant qu'on s'y attarde? Pourquoi la concurrence ne semble pas en mesure de rivaliser avec cette fameuse famille moderne? Nathanaël Picasse a analysé les 5 premières saisons de la série et nous dévoile son verdict aujourd'hui. Bonjour Nat.
Bonjour.
Avec nous aujourd'hui également Sébastien Porcu, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Alors Nat, comment expliquer un tel plébiscite?
Tout d'abord, il faut noter que cette série adopte un format de narration qui est très en vogue en fait en ce moment. C'est le fameux mockumentary. Alors d'ailleurs, ce nom un peu barbare, c'est cette façon de filmer qui rappelle le documentaire. Exit, donc le fameux quatrième mur, les rires préenregistrés, les tournages en public ou les trois lieux uniques qui avaient tendance à figer la sitcom dans une sorte de cahier des charges qui était parfois très contraignant. Le mockumentary est un style de narration qui a trouvé ses lettres de noblesse avec des séries comme The Office ou encore Arrested Development.
En fait, vous avez déjà parlé donc de Arrested Development, on en a aussi parlé avec Better of Ted, et quelque part Fat Actress était aussi un peu dans cette mouvance.
C'est vraiment le nouveau genre, la nouvelle façon de filmer la sitcom en fait finalement. Maintenant, quand on voit maintenant les sitcoms un peu à l'ancienne comme Friends, ça paraît très figé en fait et on a du mal à s'y attacher. Ce qui se passe ici de particularité avec cette façon de filmer, c'est qu'on a l'impression que les personnages évoluent dans un environnement réaliste, comme s'ils étaient filmés par une équipe de tournage, fictive en l'occurrence, qui réaliserait un documentaire sur cette famille à la manière d'une émission comme Striptease par exemple, pour ceux qui se souviennent encore de cette mythique émission belgo-française. Avec ce site particulier, c'est que cette fameuse équipe de tournage n'est jamais vraiment mise en scène directement. Elle n'est pas présentée, on n'a pas les motivations, on ne sait pas pour quelle chaîne ou pourquoi est-ce que cette caméra est là, mais en tout cas, elle est là. Sa présence est vraiment évidente quand on a les personnages qui se confient directement face caméra. Quand on les voit commenter une scène qu'ils viennent de vivre, on les voit effectivement assis dans leur fauteuil face à la caméra et ils expliquent leur motivation ou ils expliquent pourquoi est-ce qu'ils ont réagi d'une certaine façon.
C'est limite à se demander si à la fin de Modern Family, ils vont pas justement faire une petite référence à ce fameux documentaire. Est-ce que voilà, finalement, c'est quelque chose qu'on va évoquer ou qui ne sert que de procédé.
Peut-être, peut-être, mais en même temps, moi, je vois Aristide Development, ça n'a jamais été expliqué, et pourtant, il y avait aussi cette fameuse, quoi qu'il n'y avait pas d'interview face caméra, mais enfin...
Parce qu'ici, on est quand même à la limite de la télé-réalité, puisque les interviews dans des confessionnals, c'est comme la télé-réalité.
C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que effectivement, ils reprennent les codes de la télé-réalité où il y a une scène de dispute qui est entrecoupée de scènes après du personnage, parce que dans la télé-réalité, on peut appeler ça vraiment des personnages qui viennent après dans la confession room et qui expliquent ce pourquoi, et avec Nabila qui fait son fameux halo par exemple. Mais c'est vraiment ça, on reprend les codes, sauf qu'évidemment ici, au lieu d'avoir un truc qui est plus ou moins bien joué, on est sur quelque chose qui a été bien travaillé à l'avance, avec des dialogues qui ont été ciselés à l'avance.
Avec cette petite gêne quand même de se dire, quand on se rend compte de ce procédé et qu'on se dit oui, c'est comme un documentaire et qu'on en est très conscient, on se dit mais ils vont tourner jusque quand ce documentaire, ça va jamais finir. Donc quelque part, il y a un petit accro dans le scénario.
Mais c'est pour ça qu'il n'explique pas aussi. Hein. Il n'y a pas d'explication sur cette fameuse équipe et on accepte que c'est comme ça. En même temps, c'est comme une sitcom à l'ancienne. Pourquoi est-ce qu'il y a des rires sur... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison qu'on vive sa vie devant un public qui rigole. Mais on accepte quand même ce postulat-là. On a vraiment des fois l'impression qu'il y a la présence de l'équipe de tournage lorsqu'il y a ces interviews face caméra. Cette équipe se fait aussi deviner plus furtivement dans la façon dont les images sont tournées. On a la caméra à l'épaule, évidemment, avec des changements d'angle qui sont parfois un peu secs à l'apparition d'un personnage inopinément. On a un petit effet de flou, de zoom aussi, quand il y a une action qui se fait un petit peu plus intense. Et de temps en temps, on a aussi des personnages qui jettent un petit regard en direction de la caméra pour créer vraiment un lien, une connivence avec le public, parce qu'il s'est passé quelque chose ou que quelqu'un a dit quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire et on a ce petit regard.
C'est la différence avec les sitcoms traditionnels, c'est que les personnages sont conscients qu'ils sont filmés.
Oui.
Et qu'ils sont héros de quelque chose.
Tout à fait. Voilà, clairement. Et en même temps, de temps en temps, on a l'impression qu'ils les oublient. Mais bon, c'est comme les reportages à la striptease aussi. Hein. On a l'impression que de temps en temps, ils savent et ils en rajoutent un petit peu. Et puis, de temps en temps, ils sont vraiment tellement dans leur quotidien qu'ils oublient carrément qu'il y a cette caméra. C'est un choix de narration qui n'a rien d'innovant en soi, puisque ça a été déjà repris dans pas mal de séries maintenant, mais qui est très pertinent dans le cadre de Modern Family. Parce que comme on épouse vraiment les codes de mise en scène de notre époque, on est dans la télérité, on est dans la modernité. Et puis, il faut dire aussi, il y a aussi le jeu des acteurs qui amplifie fortement cette sensation de réalité pour le coup, parce que même s'ils évitent pas toujours la caricature ou le très forcé, ils ont un jeu quand même assez naturel qui amplifie cette impression de reportage qui capte sur le vif la vie d'une famille.
Jay, que nouveau ce plaisir.
Je suis passé récupérer Manny, alors me sors pas tout ce couplet.
Je sais pas ce que je lui ai fait, mais il est toujours content de me voir. Ou peut-être qu'il est comme ça.
Manny n'est pas là. Il est parti avec Luc chez Xander.
Oh, Manny ne t'a pas dit non plus où il allait. Quand je te dis qu'il faut qu'on se méfie...
Du coup, je suis venu pour rien. Certainement parce que Gloria a voulu me punir. Je crois qu'elle a fouillé dans mon téléphone et qu'elle a lu mes mails.
Ah, ça c'est pas cool. Les mails, c'est privé.
Dont ceux d'une personne à qui j'ai prêté de l'argent.
Ce qui est votre droit le plus absolu.
Une femme.
Oh, non. Bon, alors, si j'étais vous, je rappellerai à ma femme que ma vie, c'est ma vie, et que si ça lui plaît pas, c'est la même chose.
Chérie, tu m'as promis de nettoyer la poêle quand tu fais des brownies.
Eh ben, peut-être que j'ai oublié. Si ça te pose un problème, tu sais ce qu'il te reste à faire.
Il parle comme ça uniquement quand t'es là.
Ça tombe bien, je m'en vais.
Oh, d'accord.
Salut, papa. Salut, mon pote.
J'ai tracé le téléphone de Luc, et il n'est pas chez son ami Xander.
Chérie, j'aime la technologie autant que le futur Steve Jobs, mais tu trouves ça bien d'espionner nos enfants?
Oh. Non, c'est aussi nul que de créer un faux profil d'amis sur Internet, Margot Lacroix.
Maintenant que t'as un boulot, je croyais que t'allais arrêter ces bêtises. On peut l'appeler si tu veux savoir.
À l'époque, j'aurais rêvé d'avoir un père comme toi, je me serais éclatée.
Allô?
Salut bonhomme, je voulais m'assurer que t'étais bien arrivé chez Xander.
Ouais, ça va.
Ah oui, parce que j'entends des voitures et Xander vit dans un quartier super tranquille.
Ouais, en fait, on n'est plus chez Xander, on est chez Samy.
Oh oui, bien sûr, Samy, ça explique tout. Amusez-vous bien et faites pas de bêtises.
Il ment à nouveau. Regarde, son copain Samy habite ici. Et il est à l'angle d'Olympique et de la 20e.
Olympique et la 20e?
Oui.
C'est un entrepôt abandonné où les gosses vont fumer.
Quoi? Ok, branle-bas de combat.
Attends. T'en es sûr?
J'accepte de répondre, mais je ne veux aucun commentaire, d'accord?
D'accord.
Tu reviens de là-bas, tu ressembles à un lapin albinos.
Et donc ce qui est assez intéressant avec Modern Family, c'est qu'on se réduit pas finalement qu'à une seule personne, qu'à un seul couple, qu'à un seul environnement familial. On a plusieurs personnages qui sont à peu près tous liés, puisque voilà, ils sont tous de la même famille. Mais c'est quoi finalement qui fait la particularité de tout ça?
C'est vrai qu'on parle d'une famille, parce qu'en fait, Modern Family met en scène trois familles qui, en fait, constituent une grande. Je m'explique. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu la série, il y a d'abord le patriarche, Jay Pritchett, qui est donc joué par Ed O'Neill. C'est un sexagénaire qui est en couple avec sa nouvelle femme, Gloria, une bomba latina de plus de 20 ans, sa cadette. Alors le couple a de quoi détonner, parce que Jay s'apparente à un papy rangé, plutôt riche, qui a réussi sa vie, proche de la pension, qui est craint d'ailleurs dans son travail. Et sa femme flamboyante fait beaucoup d'envieux dans le quartier, évidemment. Elle est grande, mince, avec des seins comme des obus, et elle a vraiment rien de la petite bourgeoise BCBG d'une Desperate Housewives bien rangée, etc. Non, Gloria, elle ouvre sa bouche, qu'elle a plutôt grande d'ailleurs, à la moindre occasion. Elle fait profiter de son entourage, sa voix stridente, de son fort accent latino, et elle est très fière aussi de ses origines latines, donc elle est fougueuse, clairement, quoi. C'est vraiment un cheval qu'il faut arriver à dompter, on va dire, si je peux utiliser cette image parfois un peu macho. Donc en fait, c'est vraiment une véritable tornade qui sait aussi se faire maman poule et étouffante pour son fils qui est issu d'un premier mariage, qui est Manny. Alors Manny, c'est vraiment l'enfant qui désespère son beau-père par ses attitudes et sa philosophie de vie qui semble tout droit sortie d'un autre temps, d'une autre époque. Parce que Manny se veut un peu gentleman, prévenant, délicat. Il aime la poésie, il aime charmer les femmes, mais pas en roulant des mécaniques, mais en plutôt en stimulant l'intellectuel, etc. Et il n'a pas peur non plus de montrer qu'il aime sa mère, qu'il aime ses racines latino, quitte à se ridiculiser complètement. Bref, en fait, Manny est aux yeux de Jay, qui est un vrai macho, une totale chochotte. Et de toute évidence, Jay désapprouve ce comportement, car il a déjà éprouvé beaucoup de difficultés à accepter l'homosexualité de son premier fils, Mitchell. Ce dernier vit en couple avec le très excentrique Cameron. À l'instar du couple Gloria-Jay, Mitchell et Cameron semblent totalement opposés dans leur comportement. Mitchell se veut aussi discret, rangé que son père d'ailleurs, et on sent qu'il prend beaucoup sur lui pour justement pas froisser son père dans son attitude, pour pas que son homosexualité ne soit dérangeante aux yeux de son père. Tandis que Cameron, alors bien qu'il soit issu de la ferme, de l'Amérique profonde, alors lui, il éprouve vraiment aucune difficulté à afficher son homosexualité, à grand renfort de cris hystériques, de poignets cassés qui virevoltent dans les airs et de poses que n'aurait pas renié Zaza Napoli dans La Cage aux Folles. Alors là, on est vraiment dans le personnage qui est complètement hystérique. Mais bon, Jay est bien obligé de supporter cet encombrant beau-fils puisque Cameron et Mitchell sont en couple depuis très longtemps. Et puis surtout, et c'est comme ça que la série commence, ils viennent d'adopter une petite vietnamienne, Lily. Et donc évidemment, il est grand-père, donc il doit faire avec. Et de l'autre côté, il y a sa fille Claire qui a épousé Phil Dunphy, alors qui est un grand enfant, hein, clairement, Phil Dunphy. Et à deux, ils ont eu trois enfants, Hallie, Alex et Luke. Et ce sont trois enfants qui ont trois personnalités qui sont très affirmées aussi et très différentes. On a Ellie, l'aînée, qui est une sorte de bécasse superficielle, obnubilée par son apparence. Alex, qui est l'intello de service, pour qui réussir ses études, c'est une priorité absolue. Là, on est, bonjour le cliché, hein, évidemment, entre le feu et la glace, évidemment. Et on a Luc, le petit dernier, qui est plutôt idiot, assez turbulent et qui adore faire les 400 coups avec son père.
Donc, on a compris, dans Modern Family, finalement, c'est un peu une explosion, voilà, de personnalité, c'est un cocktail qui est quand même assez détonnant.
Et qui permet en fait au scénariste de posséder toutes les cartes pour créer des situations rocambolesques qui sont propices évidemment à provoquer de grands éclats de rire. Alors la série use et abuse des ressorts connus mais efficaces de la sitcom, c'est-à-dire les quiproquos, les personnages hystériques, les malentendus avec aussi pas mal de comiques de répétition dans certains cas, du comique visuel et surtout vraiment la confrontation de caractères opposés qui permettent à des situations qui sont assez banales finalement de dégénérer. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter un extrait. Cameron et Mitchell qui sont au restaurant, ils ont décidé de passer une petite soirée en amoureux. À côté d'eux, il y a une table qui est assez proche et ils finissent par sympathiser avec le couple à côté d'eux. Et en fait, ils se rendent compte que l'homme en question va demander à sa copine de l'épouser. Seulement, cette dernière va dire non. Et ils vont essayer de s'en mêler pour essayer de désamorcer la situation et essayer d'aider le couple à se réunir. Mais malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu.
Pour information, nous avons beaucoup de choses à nous dire.
Oui, on a seulement banni plusieurs sujets pour pouvoir passer une soirée romantique et tranquille.
On s'est peut-être mis trop de pression pour pouvoir rendre ce moment merveilleux, mais en réalité, chaque instant passé auprès de lui est déjà merveilleux.
Oh chérie, mais non, c'est moi le plus vénard.
Et moi donc ?
Je suis désolée, j'ai carrément paniqué quand il m'a fait sa demande parce qu'on est tellement différents et ça paraît sans importance, mais pour moi ça reflète beaucoup de choses. Je ne sais pas si je peux passer toute ma vie avec quelqu'un qui ne veut pas partager son plat.
Croyez-moi, c'est possible.
Et justement, je devrais peut-être pas en faire tout un plat, mais je te promets de faire un petit effort.
Surtout pas, tu n'aimes pas ça. Je dois respecter ton point de vue.
Est-ce que vous êtes mariés ?
C'est prévu en mai.
Oui.
Même si concrètement, on est mariés depuis des années déjà. Oui, maintenant, Cameron est-il bien l'homme dont je rêvais ?
Prudence, terrain glissant.
Oui. Oui, à 100%, parce que malgré des compromis, des disputes, des prises de tête et même des moments profondément ennuyeux, je n'imagine pas ma vie sans lui.
C'est trop mignon, j'aurais zappé l'ennui personnellement, mais bon.
Alors au final, Cathy, la seule question à vous poser, c'est est-ce que je peux imaginer ma vie sans Brandon ?
Écoute, Cathy, on peut s'en aller, j'ai payé l'addition.
Oh non, attends, s'il te plaît, assieds-toi. Cameron et Mitchell viennent de m'aider à comprendre plein de choses.
Ah oui ?
Oui, ils m'ont dit qu'il fallait que j'essaie d'imaginer ma vie sans toi, ce que je viens de faire, et j'y arrive.
Oh, on lui a pas dit ça. Mais moi, j'ai jamais dit ça.
J'aimerais que ce soit aussi magique qu'entre vous. Je suis vraiment désolée, Brandon. On mérite tous les deux une histoire comme la leur. C'est ce que me répète mon cœur et mon instinct.
Oh.
Je ferais peut-être mieux d'y aller. Je vais prendre un taxi pour rentrer. Au revoir. Et... merci à vous.
Non, pourquoi on n'a rien fait ? Non, on n'a rien dit du tout, je vous jure.
C'est la pire soirée de ma vie.
Vraiment désolé, mais au moins, maintenant, vous savez où vous en êtes. Et vous pouvez tourner la page Cathy.
La grande force, finalement, de Modern Family, c'est de viser, finalement, le quotidien. C'est vraiment ça, c'est dans les situations les plus banales, arriver à faire ressortir tout le potentiel comique.
Exactement, et c'est là où on amplifie ce côté télé-réalité et documentaire, en fait, de la série. C'est toujours une situation dans laquelle tout un chacun peut se reconnaître, se dire, oui, moi aussi, alors bien sûr, le trait est forcé, hein, mais il est presque toujours possible de se dire qu'on a déjà vécu cette situation. Les réunions parents professeurs qui peuvent être des fois assez rébarbatives, les anniversaires de famille qui cristallisent des frustrations entre les uns et les autres, la Saint-Valentin qui peut se montrer compliquée quand on essaye absolument de vouloir soit surprendre son conjoint, soit essayer de pimenter sa vie amoureuse alors que c'est pas du tout spontané, les tentatives pour séduire à nouveau son conjoint, les petites jalousies évidemment qui peuvent se mettre en place, des crispations entre les parents et les pièces rapportées de la famille avec les beaux-fils, les belles-filles, pas toujours non plus évident, des conversations téléphoniques entre membres de la famille pour casser du sucre sur l'un et sur l'autre. Voilà, on est vraiment plongé dans le quotidien de cette famille et c'est vraiment criant de vérité et ce parti pris alors du mockumentary prend vraiment tout son sens avec en plus ces acteurs très spontanés qui créent une alchimie qui fait que la série fonctionne très très bien.
Est-ce que justement ça fonctionne encore après 5-6 saisons ?
Oui, même si c'est difficile de garder le rythme. Hein. Certes, il y a des épisodes qui sont plus faibles que les autres et ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que les épisodes les plus faibles en général sont ceux en début de saison, comme s'ils avaient du mal à, comme un diesel, relancer la machine, puis pouf, ça repart et ça redevient vraiment très drôle. Notons aussi que les épisodes peuvent se regarder un peu à la manière d'un Simpson. Il y a de temps en temps des petits éléments de feuilleton, mais c'est très très rare. La plupart du temps, on peut regarder les épisodes séparément et dans un sens aléatoire, ça ne va pas gêner la compréhension de l'histoire.
Sauf peut-être sur la croissance de Lily.
Oui, voilà, sauf sur la croissance de Lily, effectivement, et qui finit par intervenir de plus en plus, oui.
Il n'y a pas une espèce de lassitude ou une certaine répétition au niveau des thèmes qui sont abordés ? Ils arrivent encore à se renouveler après 5 saisons ?
Eh bien écoute, c'est ça qui est fort, c'est que moi je trouve que oui, c'est aussi grâce au système qu'ils ont mis en place dans Modern Family, parce que pensez donc que ce qui est particulier dans Modern Family, c'est qu'on ne suit pas une seule famille, on en suit 3, et j'ai compté, ça fait 12 personnages au temps d'antenne qui est relativement équilibré. Alors ça relève du challenge, mais en même temps, ça assure un certain renouvellement des situations, des combinaisons d'échanges aussi entre les personnages qui n'interagissent pas toujours ensemble au même moment, et donc ça permet de pas lasser le public. L'intérêt aussi de cette grande structure, c'est que ça donne la possibilité de faire soit des épisodes où toute la famille se rencontre au grand complet, ou alors de développer des histoires parallèles dans chacune d'entre elles. Et donc on ouvre vraiment le champ des possibles au niveau du traitement de la série, au niveau du traitement des situations, et ce qui leur permet justement d'éviter cet étouffement caractéristique des sitcoms du même genre, ou la répétition un peu trop abusive de certains gags récurrents qui mènent parfois les personnages à la caricature. Là, en l'occurrence, on est quand même dans quelque chose de tellement large finalement qu'on peut s'en servir encore sans tourner dans le vide.
Quoi. On n'est pas encore à la saturation.
On pourrait
arriver, mais on n'y est pas encore.
Exactement. Et en plus, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on voit que la série capitalise sur chacun des personnages sans en abuser. Je trouve que c'est assez subtil, mais c'est peut-être juste une impression, mais j'ai l'impression que chaque saison met un personnage en particulier à l'honneur. Dans la saison 1, moi je trouve qu'ils avaient vraiment réservé les meilleures vannes à Cameron. Dans la saison 2, c'était plutôt Gloria qui révélait tout son potentiel comique. Et dans la troisième, par exemple, c'était Claire. Claire qui jusque-là, j'avais trouvé moyennement drôle. Tout d'un coup, on lui a réservé des situations où c'était vraiment hilarant. Et dans la quatrième, il y a Lily, puisque tout d'un coup, Lily a pris du grade parce qu'elle est devenue grande, elle a pris la parole. Dans la quatrième, on se rend compte que Lily a une forte personnalité. J'avais eu l'occasion de faire évidemment un petit supplément en la mettant à l'honneur. Et clairement, ce personnage était mis en avant dans la saison 4. Et dans la saison 5, pour moi, c'est vraiment les enfants Dumphy qui prennent de l'importance.
D'ailleurs, justement, par rapport à cette saison 5, j'ai trouvé que par moments, elle se voulait peut-être un peu plus, je n'irais pas jusqu'à dire touchante, mais voilà, peut-être pour des sujets beaucoup plus sensibles. Je pense notamment à l'épisode où Alex va chez le psychologue et qu'elle se rend compte finalement qu'elle appartient pas du tout à sa famille. Et on arrive à un épisode où voilà, elles font en pleurs et c'est assez surprenant.
C'est ça que j'aime beaucoup dans cette série, c'est que, alors c'est très drôle la plupart du temps, mais par petites touches effectivement, on a l'émotion qui tout d'un coup, au détour d'une scène, nous cueille, et c'est à des moments où on s'y attend pas spécialement aussi. Il y a cet épisode-là effectivement où on voit la faille de Alex qui apparaît, on a aussi je ne me souviens plus dans quelle saison, quand Cameron et Mitchell veulent adopter un deuxième bébé, et ils se rendent compte à la fin de la saison qu'ils pourront pas. On avait un épisode très très drôle, et soudain, ça devient triste, ça devient touchant, ça devient poignant, et ce qui permet effectivement de s'accrocher d'autant plus au personnage qu'on découvre quelques failles, et ça je trouve que c'est vraiment vraiment bien amené dans la série. Autre point fort de la série, c'est les dialogues sont extraordinaires. Faut dire que la Modern Family enchaîne vraiment les situations et les dialogues à une vitesse d'une mitraillette. C'est d'ailleurs très compliqué pour moi d'avoir trouvé des extraits à vous faire écouter, parce que c'est difficile d'avoir une scène complète qui dure plus d'une minute finalement, parce que la série passe souvent d'une scène à l'autre, d'une famille à l'autre. Et alors, amis de la VO, accrochez vos ceintures, car le débit de parole est très très élevé aussi. Il faut s'accrocher, il faut être soit plutôt bon en anglais ou alors être un excellent lecteur pour s'accrocher au niveau des sous-titres. Maintenant, je ne vous conseille pas non plus de vous rabattre sur la version française, qui est une catastrophe industrielle, notamment puisque on perd beaucoup de charme au niveau des personnages, et en particulier par exemple celui de Gloria, sa voix est vraiment ratée de chez ratée. En plus, elle a une voix vraiment très très particulière en version originale, et là elle s'est totalement foireuse, quoi.
On avait déjà eu le cas avec Fran Drescher.
Exactement.
Bon, ben je crois qu'on a compris que c'est une série que tu revendiques, que tu conseilles, que tu plébiscites.
Dans la catégorie des sitcoms qu'on a envie de regarder de temps en temps comme un petit bonbon sucré qui fait du bien, eh bien, je trouve que Modern Family est une vraie réussite à ce niveau-là. Ça a repris un peu le flambeau d'un Arrested Development, je trouve. Ce côté frais, ce côté très décalé, ce côté très drôle et sans prise de tête est vraiment très agréable. Et je pense que les éléments sont encore présents pour que cette série continue à nous amuser pendant quelques saisons encore.
Et bien voilà, c'est la conclusion de ce dossier aujourd'hui. On espère en tout cas vous avoir donné peut-être l'envie de redécouvrir Modern Family, ou en tout cas de la voir sous un autre œil. On se retrouve très prochainement pour un prochain dossier. Merci Sébastien, merci Nat, et à bientôt.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.